Cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 27 octobre 1986.
La dernière fois, je vous ai situé, je crois bien, la philosophie politique dans l'ensemble de la philosophie. Nous avons, il y a 2 ans, fait toute une grande topique de la philosophie politique. Alors, je n'arprends pas. Parce que c'est pas la peine de reprendre indéfiniment. Je reprends simplement le fruit de cette topique. Pratiquement, on s'aperçoit, en regardant au point de vue historique, cette réflexion politique. Revenir à la caverne, acceptant de se faire rouer de coups par tous ses semblables qui ne comprennent pas du tout ce qu'il est. Comme Jérusalem tue ses prophètes, Platon considère que Athènes n'accepte pas ses philosophes. La mort de Socrate. c'est l'aspect de l'efficacité et du fait gérer qui l'emporte sur le poids du moral. De là va naître la position du libéralisme. Le libéralisme au niveau philosophique, pas au niveau économique, au niveau philosophique. John Locke. Pas la même chose, le machiavélisme et le libéralisme. Mais je crois qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose de semblable des deux côtés. Parce que, de fait, on ne regarde pas le bien de l'homme. L'homme ne cherche qu'une seule chose, c'est à être libre. Et c'est la liberté de l'homme. Ces positions-là que nous nous trouvons. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas famille, ça n'existe pas pour Platon. C'est l'union libre. Platon est prophète. C'est l'union libre. L'union libre. Pas pour tout le monde. L'union libre pour ceux qui sont les défenseurs de la cité. L'armée. C'est extraordinaire, ça.
La famille, c'est une commune.
vraie philosophie de la nature. Il faut demander aux pères de famille, aux mères de famille, de réfléchir sur ce que représente pour eux cette communauté familiale. Parce que toute philosophie se fait à partir de l'expérience. C'est très important de se rappeler ça. Il ne s'agit pas d'idéaliser la famille, il s'agit de comprendre ce qu'elle est. Et de comprendre la finalité de la famille. Alors là, les très gros problèmes qui se posent pour Aristote, la finalité de la famille, qui est au point de départ de toute communauté, c'est la procréation. La procréation donne une certaine finalité à la famille. Aristote n'exclut pas une autre finalité. Il ne l'exclut pas. Qui pourrait être l'amitié entre les conjoints. Il reconnaît qu'entre les conjoints, on est en présence d'une amitié. Il est le premier à faire ça. Pour Platon, il n'y avait pas d'amitié possible entre l'homme et la femme. Il n'y avait d'amitié possible qu'entre hommes. Il n'y avait pas d'amitié possible entre l'homme et la femme. Ça, il faut bien le comprendre. Comme on dirait aujourd'hui, l'homophilie était pour Platon la seule véritable amitié. Et on le voit bien dans le Banquet. Tandis que pour Aristote, et là, Aristote a un réalisme très étonnant. Il y a une amitié entre l'homme et la femme, une amitié possible. Et pour lui, cette amitié possible joue un rôle capital pour la famille. Mais il ne précise pas. Ah, il ne précise pas. Il ne faut pas dire, faire dire à Aristote ce qu'il ne dit pas. Il ne précise pas si l'amour d'amitié entre l'homme et la femme est premier dans la communauté familiale, ou si c'est la procréation qui est première. Donc, une grande question qui demeure ouverte au plan philosophique. Je pense que je me place au plan philosophique ici. Mais ce qui est beau, c'est qu'Aristote considère l'amitié de l'homme et de la femme comme un type d'amitié irréductible aux autres amitiés. Et il fait même une conclusion. bien ça, c'est un tissu de relations. Et il voit que tout de suite, ce tissu de relations qu'est la famille, pour lui, implique cette triple relation. Pour lui, on va voir si c'est juste de garder ça. Et la relation du maître et de l'esclave, que déjà Platon avait posé et qu'Aristote reprend, et qu'on retrouvera dans l'hégélianisme, et qu'on retrouvera dans l'idéologie marxiste. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a un fil conducteur. Un fil conducteur depuis Platon jusqu'au communisme. Et le fil conducteur, c'est la relation du maître et de l'esclave. C'est très curieux. Alors ça commande tout. De l'époux et du... relation spécifique de la famille, c'est l'époux et l'épouse. D'où l'aspect de la procréation. Et l'aspect de l'éducation. Et Aristote se demande quel est le bien commun de la famille. Le bien commun de la famille, c'est la survie de l'espèce. Donc c'est bien, voyez, c'est bien le bien commun. C'est bien la procréation et l'éducation. Mais vous, mettez toujours les deux en même temps. Procréation et éducation. Alors, c'est le bien commun, ça. Le bien commun. Alors, vous savez ce que dit Aristote sur le bien commun. Il considère que le bien commun est plus divin que le bien de l'individu. De sorte qu'on peut dire qu'Aristote est le père de la philosophie communautaire en voyant la famille et la naissance du bien commun. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir ce que dit Aristote. Aujourd'hui, je ne pourrais pas reprendre le même chef, vous comprenez? Je me ferais battre à coups de bâton. Je ne reprends pas le même chef parce que je crois que, de fait, le christianisme a mûri la morale familiale. Et que je ne peux pas reprendre le même chef. Mais je peux considérer que l'aspect économique est bien fondement. C'est vrai. L'économie n'est pas la finalité, mais elle est fondement. Là, Aristote a dit quelque chose de vrai. Mais ce qui est juste aujourd'hui, ou plus exactement, en fonction de l'évolution, parce que là, il y a évolution. L'économie n'est plus une économie familiale. Alors on peut juger que c'est un bien ou un mal, c'est un fait. L'économie est au niveau international. Et ça, je ne peux pas changer. Même si je pleure que l'économie n'est pas familiale et que je me dis c'est la destruction de la famille. Partons dans le désert et de nouveau ayons une économie familiale. Là, on sera tranquille et on pourra avoir une véritable famille. Ça peut se faire de temps. dire ça. Et pourtant, c'est vrai, philosophiquement. On ne peut pas le dire, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas écouté quand on dit ça. Par le climat d'aujourd'hui. C'est terrible, c'est comme ça, c'est un fait. La science économique, hein. Il suffit d'en avoir fait un tout petit peu et d'avoir écouté quelques leçons de science économique pour s'apercevoir que l'homme comme tel n'intervient pas. On a thématisé l'économie pour l'économie, indépendamment de l'homme. Et on a regardé l'économie uniquement comme des rapports de force, des rapports d'efficacité. L'économie japonaise l'emporte sur toutes les autres parce que de fait, le travail n'est pas évalué à la même valeur. Pour maintenir une économie européenne opposée et une économie américaine. Ce sont des blocs de force. Le marxisme, l'Amérique, le Japon, l'Europe et l'Afrique. Et l'Afrique, elle aurait le tiraillé entre les deux. Va-t-elle faire un lien avec la Chine? La Chine viendra planter du riz. Son grappin dessus, parce que ça pourrait être un grenier merveilleux. Les États-Unis vont mettre leur grappin et l'Europe aussi. Alors vous voyez, et c'est un fait que tous les pays qui économiquement sont moins développés deviennent matériellement le lieu matériel, pas humain, le lieu matériel de vouloir accaparer. Quand vous essayez de comprendre ce que représentent les problèmes économiques d'aujourd'hui, c'est uniquement une question d'équilibre, d'énergie, de travail, d'efficacité. Et ça va très loin. Quelqu'un qui est bien placé pour ça m'a dit qu'on avait fait des calculs pour savoir si les pays par le même développement économique peuvent rattraper l'économie des pays nantis. Mathématiquement, seule manière de sauver la situation, c'est de remettre l'économie relative à l'homme. L'homme est-il pour le sabbat? Le sabbat est-il pour l'homme? Quand il y a eu, il y a quelques années, je crois que c'était en Suède, international à propos de la pollution des mers. J'avais un ami qui était présent et qui m'a raconté comment ça s'était passé parce que les journaux ne l'ont pas dit. Il y avait à ce moment-là des représentants de Mao. Ils étaient en uniforme. Tous les mêmes. Assez impressionnant. Ils ont commencé par dire la science. Le progrès est-il pour l'homme ou l'homme est-il pour le progrès de la science et de la technique? Personne n'a répondu. Et plus les discussions revenaient, plus ils revenaient tout le temps là-dessus. L'homme est-il pour le progrès ou le progrès est-il pour l'homme? Personne n'a relevé. Et eux prenaient ça d'un point de vue philosophique. En disant la pollution de l'eau, la pollution de l'air, met l'humanité, au bout d'un certain temps, dans une situation limite. Et donc, il faut avoir une vision de l'homme. C'est pas un équilibre économique qui résolvera le problème économique. Parce que l'économie est aveugle. Et plus l'économie augmente, plus l'économie est tyrannique. Alors, c'est le problème de l'homme qui est en jeu. Et le problème de l'homme seul est en jeu. Alors ça, il faut le comprendre philosophiquement pour pouvoir le démasquer constamment. Ça, c'est le rôle du philosophe. Mais c'est le rôle de l'homme. C'est pas le rôle du chrétien. Le chrétien doit le faire, le pape l'a fait. Mais on ne peut le faire que sur le terrain, dans la mesure même où on est. Coincé, ça.